Matière à penser, Dominique Rousset.
Et nous vous proposons ce soir Vieillir au XXIe siècle, en réécoute une émission que nous avions consacrée à une nouvelle génération quasi inexistante dans les siècles passés et même le dernier. Nous parlions des personnes très âgées, parce qu'elles étaient si rares il y a encore quelques décennies, nous les connaissons peu. Et comme on va le voir, elles ont peu intéressé jusqu'ici le champ des sciences humaines. Cela change. La sociologie française est rattrapée par la réalité démographique. Ces personnes ne sont plus des exceptions statistiques, mais une classe d'âge en devenir qui passionne mon invité. Il leur a consacré sa thèse d'ethno-anthropologie, c'était il y a près de 10 ans, mais il poursuit depuis ses travaux sur l'état de vieillesse propre au grand âge, non plus considéré seulement comme une mémoire vivante, encore moins comme une population dont il faut prendre soin, mais comme des individus faisant état de mode d'être, de faire et de penser bien spécifiques. Le siècle des centenaires. Bonsoir Frédéric Ballard.
Bonsoir.
Sociologue, anthropologue, membre du laboratoire lorrain de sciences sociales et maître de conférences à l'université de Lorraine. Et vous vous intéressez à ce que vous appelez joliment les plus âgés des âgés.
C'est ça.
Pourquoi ce choix ?
Alors, ça vient un petit peu de mon parcours, en fait. Moi, je suis ethnologue de formation. Je me suis surtout, au départ de mes études, intéressé au domaine rural. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à mener des entretiens, aller à la rencontre de personnes âgées qui me parlaient du passé, de leur vie, à une époque que moi, je n'avais pas connue. Et c'est vrai que j'ai développé un intérêt pour ces entretiens avec les personnes âgées, mieux comprendre leur mode de vie, leur époque. Et ensuite, on m'a proposé de faire une thèse dans un laboratoire d'épidémiologie. Alors pour moi, c'était un peu un travail d'adaptation aussi, oui. de collaborer avec des épidémiologistes, des médecins, des biologistes, mais de travailler justement cette fois-ci sur les centenaires et regarder un petit peu justement, non pas simplement ces gens comme des gens qui se caractérisent par leur longévité biologique, mais aussi de voir un petit peu leur rôle social, comment ils vivent aujourd'hui dans notre société.
Oui, et les sciences humaines, ils sont assez peu intéressants. En fait, on a le sentiment que soit ce sont ce qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire des gens qui sont quand même encore souvent dans l'emploi ou à peine sortis ou retraite, soit ce sont des gens tellement âgés que finalement on les a un petit peu laissés de côté.
Oui, alors les sciences sociales, la sociologie a mis du temps déjà à s'intéresser à la notion d'âge, puisque pour nous les sociologues au départ, la principale variable c'était évidemment le statut social, l'appartenance sociale, et puis progressivement la sociologie a commencé à mener des recherches autour des notions d'âge à partir des années 60 notamment, puis ensuite s'est intéressée à la question des personnes âgées et puis comme vous l'avez dit, d'abord plutôt des seniors. On s'est intéressé aux nouveaux modes de vie, à la retraite, aux questions de retraite. Et puis on a laissé de côté un petit peu les personnes très âgées qui par contre ont été très investies par les recherches en gériatrie à travers justement une vision assez déficitaire de la vieillesse.
Médicalisée
voilà,
surtout.
Exactement, hein. Ouais. Exactement, médicalisée, où on s'est intéressé finalement, et c'est comme ça qu'on l'a caractérisé, à la vieillesse dépendante. On parlait des plus de 80 ans comme étant la vieillesse dépendante. Et c'est assez récemment qu'on a essayé de regarder un petit peu ces personnes très âgées avec un œil sous un jour différent, je dirais.
Oui, parce qu'en fait, on ne les connaît pas quand on disait c'est une génération nouvelle. Et eux-mêmes ne savent pas. Leurs propres parents, ils ne les ont jamais vus à 90 ou 100 ans. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens de même 70 ans ont des parents de cet âge-là.
Exactement.
Et eux sauront comment faire peut-être plus tard.
Oui, alors je ne sais pas s'ils sauront comment faire, mais en tout cas...
ils auront cette expérience.
Oui, ils auront cette expérience. Et c'est ça qui fait un petit peu la spécificité de cette population-là. C'est qu'effectivement, ce sont les premiers aujourd'hui. On est à peu près à un peu plus de 20 000 centenaires en France, à peu près 21 000 centenaires et 1 million de nonagénaires. Et
peut rappeler qu'il n'y en avait que...
En 1950, c'était 35 000 nonagénaires et seulement une cinquantaine ou je crois 500 centenaires. C'était vraiment très peu. Donc... aujourd'hui, on est sur les premières générations à connaître de manière massive, finalement, une longue vie. Et moi, les personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de ma thèse, la première chose, c'était qu'ils étaient étonnés de vivre jusqu'à cet âge-là, puisque, comme vous l'avez dit, ils n'avaient pas vu leurs propres parents vieillir à ces grands âges.
C'est donc qu'ils avaient tout à inventer, au fond.
Oui, c'est ça. C'est une nouvelle période de la vie, déstabilisante au départ pour eux, puisqu'ils ne s'attendaient pas à vivre jusque-là, et qu'ils doivent trouver, et la société aussi doit leur trouver un rôle social, une place sociale qui est à construire.
Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que vous en dites très vite, d'ailleurs dans votre thèse et dans les travaux qui ont suivi, Frédéric Ballard, c'est que vous faites une distinction entre la vieillesse et les vieux, en tout cas dans leur sentiment à eux. Nous, nous avons des représentations sociales, peut-être qu'on confond un peu les deux, mais pas eux.
Oui, alors eux, ce qu'ils disaient surtout, ce qui ressortait de leur discours, c'est qu'il y avait en fait une rupture entre se sentir vieillir, je me sens vieillir, mais je ne suis pas vieux. Et ça, c'était vraiment très fort et très marqué dans leur discours parce que, encore une fois, l'image du vieux dans notre société, peut-être on parlera plus tard d'autres sociétés, mais dans notre société, elle n'est pas très valorisée. Être vieux, c'est surtout vu à travers le vieillissement biologique, physiologique, c'est-à-dire la sénescence, la perte d'autonomie physique, la perte d'autonomie fonctionnelle, et puis cette idée que le vieillir, c'est celui qui perd la tête. Donc c'est pour ça qu'il disait « je me sens vieillir dans mon corps, dans ma vie, mais je refuse », beaucoup d'entre eux disaient « je refuse qu'on me catégorise comme vieux ».
Voilà, c'est-à-dire que la chronologie ne suffit pas finalement, le calcul chronologique ne leur convient pas. « Je ne suis pas vieille, pas encore », vous dit Madame Germaine, 100 ans.
Voilà, c'est ça. « Je ne me sens pas encore vieille ». Et ça, ils étaient nombreux à le dire. « Je sens que ça commence, mais je ne suis pas encore vieux ». Et puis même certains disaient « je n'aimerais pas devenir vieille », alors qu'effectivement, ils avaient 96, 97, oui. 98 ans.
Un autre vous dit, qui est dans une maison de retraite, vous voyez là, il y a de plus en plus de vieux dans cette maison de retraite. Et maintenant, ils arrivent en chaise roulante alors que lui marche. Mais il a 98 ans.
Voilà, il a 98 ans et effectivement, il associe, en fait, comme on le fait à tous les âges de la vie, finalement, la vieillesse avec le fait d'être en fauteuil roulant, le fait de perdre la tête, de plus être autonome, de plus être celui qu'on a été. Et pour lui, il se sent pas vieux, il a 98 ans, mais c'est pas ça qui pose problème.
Juste un point, j'ai dit que vous étiez sociologue et anthropologue, vous nous avez dit comment vous aviez fait ce chemin. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir davantage d'interdisciplinarité?
Non, je crois que maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on s'est ouvert à l'interdisciplinarité, ou je dirais plutôt à la multidisciplinarité. On va regarder un même objet avec différents regards. C'est pour ça que moi, j'ai pu collaborer dans le cadre de ma thèse avec un démographe, Jean-Marie Robin, et puis avec aussi des médecins, des biologistes. Après, ça, c'est ce qui fait l'intérêt de la chose, je dirais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite à la collaboration interdisciplinaire. Et moi, je ne suis pas un réel défenseur d'une espèce de transdisciplinarité, parce que je crois que chaque discipline a sa propre épistémologie, sa propre façon de regarder un objet, un sujet. Et par moments, on voit, certains de mes collègues parlent du choc des épistémologies, parce que parfois, les regards qu'on peut avoir par nos formations, par nos références théoriques et nos approches méthodologiques font qu'elle n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, cette interdisciplinarité.
Comment définir l'âge d'entrée dans la vieillesse? Au fond, toutes les sociétés, on est là que sur les sociétés développées, on va revenir d'ailleurs sur d'autres cultures un peu plus tard, mais comment est-ce qu'on définit ça? C'est intéressant de voir que vous avez noté des différences entre pays. En Angleterre, par exemple, il y a une espèce de flou autour de cette notion du old age.
Oui,
c'est un exemple.
Effectivement, je crois qu'il y a pas de, on va pas trouver une définition qui serait universelle pour l'entrée dans la vieillesse. On en reparlera sûrement tout à l'heure, mais certains ethnologues ont même parlé de sociétés sans vieillesse. Alors, pour nous, effectivement, il va y avoir différentes, je dirais, étapes, différents seuils qui vont être traités de manière différente d'un point de vue social. Pendant longtemps, l'entrée dans la vieillesse a été associée à la retraite. On voyait avec les espérances de vie que les gens, une fois qu'ils prenaient leur retraite, ils avaient un certain nombre d'années, mais assez peu d'années à vivre en fonction, encore une fois, de leur statut social. C'est pas la même chose pour les cadres et les ouvriers. Mais la retraite a été associée comme ça à la vieillesse. Et puis ensuite, comme on le voit aujourd'hui, les gens prennent leur retraite et ils ont jusqu'à 35 ans d'espérance de vie devant eux. Donc on a déplacé un peu cette limite d'entrée dans la vieillesse. On l'a rattachée du coup à quelque chose, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de plus biologique, de plus médical, où là c'est la perte d'autonomie, c'est l'altération des fonctions, c'est la maladie d'Alzheimer, le fait aussi de quitter son domicile. Ça, c'était un point qui a été retenu aussi. Et puis, ces personnes âgées, quand on les rencontre, eh bien, elles continuent à déplacer et à questionner ces seuils et ces frontières entre les âges, en disant que voilà, on peut avoir 98 ans, être en EHPAD et pas se sentir vieux.
Oui, mais il y a aussi des considérations d'ordre. Alors là, je parle des constructions sociales que nous faisons en regardant les personnes âgées, qui sont plus d'ordre économique ou d'ordre politique. Je citais l'exemple de l'Angleterre, mais ils ont dû changer un peu avec le temps. 1908, 70 ans, ils avaient retenu comme âge de la vieillesse. C'était pour des raisons économiques, non?
Oui, c'est ça. C'était en fait des calculs en fonction de...
Et par la suite, ça a bougé, ça a été rabaissé.
Voilà, ouais. En fait, ils ont, je dirais, ajusté l'âge de la vieillesse à l'âge de la retraite en fonction des pensions qu'ils pouvaient payer. Donc il y avait quand même, encore une fois, cette association entre retraite et vieillesse. Et puis, qui reposait sur des arguments qui n'avaient rien, je dirais, de très scientifique, qui étaient purement économiques. Mais quand on regarde, parfois, quand on s'amuse à chercher dans les textes de loi, je me rappelle de cette, je crois que c'est le journal officiel du 13 mars 85 qui dit qu'une personne âgée, c'est une personne plus âgée que la moyenne d'âge de la population considérée. Donc en France, si vous êtes un homme, vous êtes à 40 ans, vous êtes dans la catégorie personne âgée. Donc on voit bien qu'il y a des catégories qui n'ont pas vraiment flambeau de sens au sens du vécu des gens.
Oui, mais enfin, l'adolescent peut dire de ses parents qu'ils sont vieux.
Exactement. Hein, exactement.
Et ces derniers considèrent aussi que les vieux, c'est des personnes qui sont en EHPAD et ainsi de suite. Enfin, on est toujours le vieux de quelqu'un.
Exactement.
Le vieux de quelqu'un. Alors, société occidentale, donc, marquée par ce mouvement un peu de scientisation, de médicalisation de la société, hein, qui imprègne vraiment toutes les dimensions. Mais eux ne veulent pas être considérés comme très âgés, ils refusent d'être considérés comme vieux, parce qu'effectivement c'est assimilé à cette forme de grammatisation dont ils se défendent. Quelle est leur représentation sociale alors du 90-100 ans?
Non, elle est pas
en termes positifs, je veux dire, c'est le temps qu'ils font, ils sont actifs, ils sont...
Alors ça va être différent en fonction des individus qu'on va pouvoir rencontrer. Pour certains, ils vont dire « Moi, de toute façon, maintenant, à mon âge, ce qui compte, c'est de pouvoir continuer à avoir ma famille, à discuter avec mes enfants, à recevoir mes enfants chez moi. » Certains vont être très attachés à leur domicile et vont dire « Moi, tant que finalement, je peux rester chez moi, que je suis autonome, je me sens pas vieux et la vie continue. » Mais en fait, ces frontières-là, la même personne peut être amenée au fur et à mesure qu'elle avance en âge à la modifier aussi. Et puis, il y a des gens qui... Moi, j'ai vu des gens qui disaient « Je rentrerai jamais en maison de retraite », et puis finalement qui y sont rentrés et qui, pour certains, s'y sont adaptés, d'autres ont eu plus de difficultés à le faire. Ce qui caractérise le très grand âge, c'est vraiment l'hétérogénéité. On peut être effectivement en mauvaise santé, il ne faut pas cacher les choses, en mauvaise santé, avoir des problèmes d'autonomie fonctionnelle, mais on peut aussi être plutôt bien d'un point de vue de la santé et puis être heureux de vivre, profiter de la vie, mais différemment de certaines catégories d'âge plus jeunes.
Un sentiment que vous avez beaucoup relevé chez eux, parce que ça s'est passé à partir d'entretiens, hein, très, très continu, à des personnes que vous avez suivies pendant 3-4 ans, d'ailleurs, dont vous avez vu parfois l'état de santé se dégrader. Et donc, vous citez beaucoup, il y a beaucoup de verbatim, et j'en ai relevé plusieurs. Une affaire très touchante, c'est quand on ne se sent plus utile. Et c'est parfois la faute de l'entourage. Un exemple que vous citez, que j'ai trouvé assez touchant, en tout cas assez frappant, c'est cette dame qui adore tricoter et qui s'aperçoit au bout de quelques temps que sa fille, qui lui apporte constamment de la laine, qui lui permet de tricoter de plus en plus, détricote derrière elle ce qu'elle est en train de faire, mais innocemment, sans méchanceté, sauf qu'à partir de ce jour-là, elle décline.
Oui, je crois que ça illustre bien aussi une espèce de préconception qu'on a longtemps eue, c'est que les personnes âgées s'ennuient et qu'il faut les occuper. Alors que elle revendique davantage un rôle social. Alors c'est pas forcément une participation sociale où, au sens où on pourrait l'entendre être actif dans la société comme le prône aujourd'hui le vieillir actif, mais voilà, trouver une place dans la famille, continuer à exister pour les siens, transmettre, faire valoir son expérience, c'est ça en fait l'enjeu du grand âge. C'est pas simplement d'être occupé, de tricoter pour tricoter, c'est tricoter parce que ma petite fille ou mon arrière-petite fille va mettre les pulls, va mettre l'écharpe, c'est ça qui fait sens.
Bien sûr, monsieur Georges, 95 ans, j'ai dit à mon petit-fils, va faucher le terrain à cause des incendies qu'il y a eu autour de Nîmes en l'occurrence. J'ai l'expérience de ces choses qui peuvent arriver, ça m'est arrivé, on est utile.
C'est ça, même si parfois on va les renvoyer du côté de l'obsolescence en disant « bah oui, mais aujourd'hui il y a les nouvelles technologies, aujourd'hui on peut en savoir plus en utilisant Internet ou les livres », mais eux ont l'expérience de ce qu'ils ont vécu et comme il le dit lui-même, ça je l'ai vécu, je n'en doute pas.
Eh oui. Par contre, ils sont très étonnés de se trouver arrivés, parvenus à un âge aussi avancé.
Oui, ouais, ils sont étonnés et du coup, ça peut produire différents types de réactions. Pour certains, c'est essayer de retrouver des repères en repensant à comment étaient leurs parents, à essayer de rester en prise avec la société. Et ils ont quelque chose à construire, ils ont quelque chose à trouver cette place-là. Et certains en sont tout à fait heureux. Je me rappelle d'un de mes informateurs, justement, qui disait... Oui, à la fois, je suis étonné d'être arrivé à cet âge-là, puis en même temps, je me dis, j'aimerais bien continuer, finalement. Avec tout ce que j'ai fait, maintenant, j'ai du savoir accumulé, et j'aimerais bien continuer. C'est presque dommage, la vie, ça passe vite, en fait. Ça c'était un message qui revenait souvent.
Mais à l'inverse, Frédéric Ballard, alors évidemment, tout est possible, même si vous avez trouvé des points communs chez eux. À l'inverse, il y a ceux qui décident, pas forcément parce qu'ils sont en mauvaise santé, mais qui décident un jour ou l'autre que c'est derrière eux. Lévi-Strauss, on a un petit peu...
Alors, la phrase de Lévi-Strauss, hein, elle est utilisée, hein, par les sociologues et les anthropologues qui connaissent un peu la vieillesse. C'était quand il avait 90 ans et qu'il disait « Aujourd'hui, je suis un hologramme brisé », avec cette idée que il était toujours Lévi-Strauss, hein, le chercheur qu'on connaît, l'anthropologue, et en disant « Je suis en train de préparer dans ma tête les chapitres de mon prochain ouvrage, et en même temps, je me rends compte que voilà, je suis un vieux et que je serai probablement mort avant même d'avoir écrit l'ouvrage auquel je pense. » Et c'est ça, finalement, l'expérience du grand âge. C'est aussi avoir conscience sans avoir nécessairement une angoisse, comme j'ai pu le lire souvent, de la mort, puisque moi j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui m'ont manifesté une angoisse comme ça de la mort, la peur du passage, de la manière dont ça va se passer, mais une angoisse de la mort, je l'ai jamais vraiment ressentie de manière très forte. Mais par contre, c'est la conscience qu'effectivement que la mort est proche. Je me rappelle d'une dame qui avait cette phrase qui disait « Je suis comme l'oiseau sur la branche. Ça tient qu'à un fil. » Et ils ont conscience de ça sans en avoir peur, sans en être inquiet et sans trouver ça anormal, en disant « Bah oui, mais à l'âge que j'ai maintenant, c'est normal de mourir. »
Pour bien vieillir, en fait, il faut savoir devenir vieux, savoir vivre ce passage. Ce que vous appelez, je sais pas d'où vient cette jolie expression, faire bonne vieillesse.
Oui, faire bonne vieillesse, c'était une expression que j'avais utilisée, en fait, par opposition au discours qui parle de bien vieillir. De bien vieillir avec cette injonction un petit peu aujourd'hui à vieillir actif, vieillir jeune, etc. Et des injonctions.
C'est assez angoissante d'ailleurs pour eux, j'imagine, parce qu'il y a une sorte d'injonction, vous avez dit le mot.
Voilà, c'est ça. Il y a une injonction et une injonction en plus qui les place dans des situations impossibles, puisque quand on a 95 ans, l'idée de vieillir jeune ou de vieillir actif, d'être dans la participation et l'activité n'a pas forcément beaucoup de sens pour eux, en fait. Par contre, on peut faire bonne vieillesse, c'est-à-dire trouver d'autres façons de vieillir que d'être nécessairement dans l'activité et le vieillir jeune.
Avez-vous rencontré des gens impatients de partir ?
Ça a pu arriver, des personnes qui avaient ce type de discours de dire « Bon, maintenant, j'ai fait mon temps et finalement, ma vie, maintenant, là, n'a plus beaucoup de sens. Je suis pas malheureux pour autant. » Mais si la mort devait arriver, ça me gênerait pas. Et là, ça va dépendre aussi, encore une fois, de l'histoire de vie des personnes. Moi, je me rappelle d'un monsieur qui était viticulteur, qui avait commencé à travailler à l'âge de 10 ans, quoi, comme ça se faisait à son époque, et qui avait taillé la vigne jusqu'à 86, 87 ans. Et là, il me disait quelque chose qui pouvait, moi, me surprendre. C'était « Maintenant, j'arrive plus à allumer mon motoculteur, c'est plus la peine de vivre. » Parce que toute sa vie était tournée vers ce rapport à la vigne-là, et éloignée de cet enjeu-là, la vie perdait un peu de sens pour lui.
Frédéric Ballard, vous voyez des différences entre les hommes et les femmes à ce sujet ?
Ah oui, enfin, en tout cas déjà, d'un point de vue statistique, il y a des différences énormes entre les hommes et les femmes, puisqu'on a 10 fois plus de centenaires femmes que d'hommes, et 5 ou 6 fois plus de nonagénaires femmes. La grande vieillesse est une affaire plutôt de femmes. Et dans un de mes articles, je disais que les hommes vieillissent comme des chênes et les femmes comme des roseaux. Pour un petit peu venir questionner une hypothèse qui n'est pas la mienne, qui nous vient un peu de l'épidémiologie, c'est de voir que finalement, à âge égal, les hommes seraient, et je mets un peu des guillemets autour de ça, seraient en meilleure santé physique, fonctionnelle, cognitive que les femmes, mais mourraient de manière plus brutale, là où les femmes seraient sur des pentes en fait plus douces, accumuler les problèmes de santé, mais continuer à vivre. Et donc effectivement, moi je me suis intéressé à regarder ça et à voir finalement, est-ce que aussi ça correspond pas aussi à des modes de vie et des modes de vieillir différents entre les hommes et les femmes ? Ce qui semble aussi être le cas.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau là-haut se dressant. Comment passer ? J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes pas, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs, et j'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, ou mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'attrez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue et seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant, mon seul.
France Culture, Matière à penser, Dominique Rousset.
Nous sommes en compagnie de Frédéric Ballard, sociologue, anthropologue, qui travaille sur les plus âgés des âgés. Ce soir, nous parlons donc du siècle des centenaires, nonagénaires et centenaires de plus en plus nombreux, comme on le sait, et qui devraient l'être encore davantage dans les décennies à venir. Frédéric Ballard, nous avons parlé des représentations sociales que nous faisons sur cette nouvelle classe d'âge, nouvelle génération. Mais vous qui les avez beaucoup écoutés, vous ne reconnaissez pas toujours dans ce qu'ils disent ces représentations. C'est de cela que nous avons parlé jusqu'à présent. Là, on vient d'entendre à l'instant l'importance des souvenirs dans cette chanson de Barbara. Et ça nous emmène aux vieux malades, évidemment, car bien entendu, il n'y a pas que des personnes en bonne santé, y compris dans celles que vous avez interrogées. Et il y en a qui sont atteintes aussi de perte de mémoire, la maladie d'Alzheimer en tout premier. Et vous avez décidé, dans les entretiens que vous menez, de ne pas mettre de côté ces personnes-là. Vous continuez à les entendre.
Oui, la mémoire, pour revenir déjà sur la mémoire, c'est quelque chose d'important pour les personnes âgées, puisque moi, je me suis intéressé à leur vécu du temps, de la temporalité. Et on voit que le passé prend une place très importante dans leur vécu du présent, c'est-à-dire par la réminiscence des souvenirs d'enfance et parfois des très vieux souvenirs, des bons moments de la vie. Quand finalement on est moins dans l'activité, on est aussi peut-être plus de temps pour se rappeler sa vie, revivre ces bons moments-là et des moments qui comptent, qui prennent de l'importance dans le grand âge. Et puis donc j'ai pas voulu m'interdire d'aller voir des personnes qui pouvaient être présentées comme ayant, du point de vue médical, des déficits cognitifs ou une maladie d'Alzheimer. En fait, en France, on a mis un peu de temps, là encore, à considérer que c'était possible d'aller discuter et mener des entretiens de recherche avec des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer au motif que, finalement, avec une maladie de mémoire, elles ne pourraient plus s'exprimer. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas.
Ça se fait ailleurs, beaucoup plus que chez nous?
Oui, en tout cas, ça s'est fait bien avant, une dizaine d'années avant qu'on commence à lancer, du point de vue de la sociologie, des entretiens avec des personnes qui avaient une maladie d'Alzheimer. Donc j'ai eu l'occasion, avec mes collègues Vincent Caradec et Aline Chamaillan, de travailler sur ces personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. Et au final, ces personnes, malgré cette maladie de mémoire, elles peuvent tout à fait s'exprimer sur leur vécu au quotidien et la maladie d'Alzheimer ne résume pas l'intégralité de leur vie.
Et les souvenirs reviennent de la même manière parfois?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir effectivement la difficulté de se rappeler ce qu'ils ont mangé à midi ou le jour de la semaine, ou etc. Mais il y a quand même du souvenir, il y a quand même des choses qui se passent, quoi.
Frédéric Ballard, il y a pas, on parle ici des sociétés développées, les nôtres, mais c'est très intéressant si on va voir ce qui se passe ailleurs. L'idée d'être vieux est quasiment universelle, mais il y a quand même beaucoup de sociétés qui ne se représentent pas du tout la vieillesse de la même façon ou qui ne la traitent pas de la même manière. On en donne quelques exemples, certains sont très frappants, d'autres plus connus.
Oui. C'est une question, c'était est-ce que la vieillesse, l'idée même de vieillesse est universelle? Alors il y a eu beaucoup de débats du côté de l'ethnologie et de l'anthropologie qui sont intéressés aux sociétés qu'on appelle traditionnelles, aux sociétés de tradition, pour voir effectivement si on pensait la vieillesse de la même façon. Donc certains, comme Arcan, ont parlé de sociétés sans vieillesse en parlant des cuivas de Colombie, en disant bah oui, il y a un rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais ensuite il n'y a plus de rite de passage et jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes intégré au groupe des adultes sans devenir quelque chose qui ressemblerait à une personne âgée chez nous.
C'est-à-dire quoi? Il y a les enfants, les femmes, les hommes, mais il n'y a pas les vieux.
Il n'y a pas les vieux. On pense pas les vieux. Alors ça a été discuté tout ça, mais ça faisait partie d'une des hypothèses. C'est des sociétés sans vieillesse. D'autres ont insisté, et ça c'est très intéressant pour nous amener à nous décentrer, à prendre du recul par rapport à nos représentations de la vieillesse. C'est par exemple les travaux de Singleton sur les Wakonongo en Tanzanie, qui dit en fait la meilleure traduction que j'ai trouvée de ce qui est notre mot vieux, c'est mzee. Mais sauf que le mzé n'est pas un vieux du point de vue biologique et du point de vue de la physiologie, de la sénescence. C'est quelqu'un qui est vieux du point de vue de l'accumulation du savoir. Et donc, chez les Wakonongo, on peut être un jeune chronologiquement et biologiquement, mais vieux par son accumulation du savoir. Donc, ça nous donne un autre regard sur ce que signifie finalement la vieillesse. La vieillesse, c'est pas simplement l'affaiblissement, la sénescence, la perte physiologique. C'est aussi l'accumulation d'un certain savoir, d'un certain pouvoir. Louis-Vincent Thomas disait à l'époque, à propos des arendats d'Australie, que le pouvoir grandit avec l'âge et que finalement, ce sont les gens âgés qui ont le plus de pouvoir parce qu'ils dirigent la vie religieuse. Et la vie religieuse, dans certaines sociétés traditionnelles, c'est toute la vie sociale.
Oui, mais ça va même plus loin parce qu'ils connaissent peut-être aussi l'au-delà. On leur attribue des pouvoirs magiques parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts de l'au-delà. Ils sont plus prêts que les autres.
Exactement. Ils ont
peur parfois même.
Voilà. Dans certaines sociétés, on va les rapprocher de tous ceux qu'on appelle les invisibles. Donc c'est pour ça qu'on va vouer de véritables cultes aux ancêtres défunts et aux ancêtres vivants, avec, comme vous le dites, une espèce d'effacement des frontières parfois entre les deux, où ils sont plus proches de l'autre monde et plus à même de dialoguer avec les défunts et de bénéficier de tout ce savoir et de ce pouvoir magique qui viendrait des défunts.
On reste encore dans les sociétés qui, entre guillemets, traitent bien leurs vieux. Il y a aussi, évidemment, le Japon, où on dit que les fameux centenaires d'Okinawa, on sait pourquoi, il y en a tant à Okinawa.
Alors, il y a plusieurs explications, effectivement.
On les appelle des trésors vivants, c'est ça?
Les trésors vivants, oui. Les démographes ont montré que c'est la région du monde où, en proportion, il y a le plus de centenaires. Donc, il y a eu plusieurs hypothèses sur ça. On a évoqué le fameux régime alimentaire d'Okinawa, qui est assez proche de notre régime crétois, mais surtout une restriction calorique. Ils mangeraient moins de calories, donc ils seraient moins usés. Donc, ça, c'était plutôt les explications du point de vue de l'alimentation. Mais il y a aussi des explications qui seraient sociales. C'est les travaux de Craig Wilcox qui évoquent notamment l'Inkigai, c'est-à-dire la préservation de la raison d'être de ces personnes par l'ensemble du groupe, avec une véritable attention qui est portée à ces trésors vivants et donc qui les maintient dans la vie, qui les maintient en prise avec leurs proches. Et donc ça serait aussi une des explications à la longue vie de ces personnes.
Mais n'est-ce pas aussi au Japon quand même que l'on voit, c'était dans La Balade de Narayama, film d'Imamura, magnifique film, où l'on voyait cet homme porter sa mère sur le dos pour aller l'abandonner au sommet d'une montagne.
Oui, alors je crois que c'était...
Parce qu'elle avait atteint l'âge.
Oui, alors c'est effectivement une fiction où on voyait cette dame qui n'était pas assez âgée biologiquement. Finalement, on la voit à un moment, une scène assez terrible, où elle est en train d'essayer de se casser les dents pour ressembler justement à ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire ce qui est attendu par la société, une vieille qui doit être amenée en haut de la montagne, abandonnée et laissée là. Donc c'est une fiction, mais certains ethnologues, comme Glasscock, ont montré... se sont intéressés à ce qu'on appelle les sociétés ayant des comportements visant à hâter la mort des personnes âgées. Oui. Donc, ils en ont trouvé beaucoup, avec plusieurs types de comportements. Pour certains, c'était parfois tuer directement la personne, comme les Chukchi de Sibérie, poignarder en plein cœur les plus âgés du groupe.
Parfois, c'était... Au moment où on le décide, au moment où on estime que...
Au moment où on les considère, justement.
Où est-ce qu'ils sont consultés?
Oui, alors, c'est toute la difficulté de savoir comment exactement ça fonctionne, mais c'est l'idée qu'effectivement, le moment est venu et que tout le monde a intégré ça. Est-ce que dans la réalité des choses, les gens, comment ils le vivaient, c'est un peu complexe à dire. Mais en tout cas, il y a des exemples comme ça. Il y a des exemples aussi d'abandon chez certains peuples nomades, chez les Syrianos, par exemple, de Bolivie, où effectivement, lorsqu'il devenait trop difficile de déplacer les gens âgés, usés physiquement, on les laissait mourir sur place. Chez les Lots de Polynésie aussi, on allait abandonner sur un îlot... les personnes âgées qui avaient des difficultés à se nourrir. Mais ce que dit...
Est-ce que c'était pour préserver le groupe? Parce que le groupe avait lui-même des difficultés à se nourrir, ou c'est parce que...
Voilà, c'est ce que dit Glasscock.
C'est débattu. Ouais.
L'analyse qu'il a là-dedans, c'est une analyse assez fonctionnaliste, en fait. C'est de dire que oui, si on faisait ça, c'était pas par méchanceté ou autre. C'est parce que la survie du groupe, même quand il y a peu de nourriture, on privilégiait certaines personnes par rapport à d'autres. Et les personnes âgées étaient un peu mises de côté, mais pas nécessairement. C'était effectivement lorsque la nourriture venait à manquer.
On le voit ça au Brésil aussi, il me semble. On le retrouve je vais retrouver ça dans vos textes. En fait, sur toutes ces différences, sur le devenir de la personne âgée, ça montre effectivement l'importance des représentations, mais qui sont dictées par des comportements collectifs. C'est parce que la collectivité vous pousse à agir ainsi. Est-ce que l'individu se comporterait de la même manière avec une personne proche?
Oui, c'est ça. C'est le milieu socio-culturel qui vient finalement donner les règles un petit peu de la manière dont on traite nos vieillards. Et ça, ça pose des vraies questions. Hein. C'est vrai que j'ai travaillé avec un étudiant qui allait faire des enquêtes en Côte d'Ivoire. On a cette idée un petit peu de l'Afrique avec la fameuse phrase d'Empateba, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, avec l'idée que ben voilà, la société africaine traite mieux les vieillards que nous. Et on voit que effectivement les choses changent aussi et que c'est pas, on est un peu dans le cliché à ce moment-là, et que certaines personnes âgées aussi reprochent un peu aux jeunes de pas faire ce que eux ont fait pour leurs anciens, même si il y a encore beaucoup d'habitants intergénérationnels, etc. Ces liens-là sont toujours imprégnés par le milieu social considéré.
Mais bien sûr, toute proportion gardée quand même. Quand on voit ces populations qui abandonnent ou qui tuent leurs personnes âgées, il y a une petite résonance quand même avec nos normes à nous de rester jeune, de tenir à distance la vieillesse parce qu'elle fait peur, parce qu'elle sert de repoussoir.
Oui, c'est toujours cette idée, encore une fois, que la vieillesse n'est pas quelque chose de très valorisé. Et on a quand même un peu dans nos sociétés, dans un culte du jeunisme, et on va mettre un peu à distance les personnes âgées. Et peut-être, alors ça peut faire partie des réflexions qu'on a et que certains chercheurs ont. Quand on regarde aujourd'hui les taux de suicide des personnes âgées, on peut se
poser... Sur lesquels vous travaillez, je crois.
Exactement, on a un projet qui a été financé par la Fondation de France sur le suicide des personnes âgées, puisque effectivement, on s'aperçoit que en moyenne, sur le taux de suicide en France, on est à 16 pour 100 000 et on est à plus de 40 pour 100 000 chez les personnes de plus de 85 ans, et chez les hommes de plus de 90-95 ans, là on atteint des taux de 100 pour 100 000. Donc c'est vraiment des taux très importants.
100 pour 100 000 chez les hommes.
On est vraiment sur des taux qui posent question et qui méritent d'engager des recherches, à mon sens, sur ce suicide-là.
Et qui tient à quoi alors? C'est une sorte de...
Alors, pour l'instant,
la
recherche est en cours, on n'a pas toutes les réponses. On a déjà, on questionne aussi les hypothèses des autres disciplines, comme par exemple certains travaux en psychologie qui mettent beaucoup l'accent sur la question de la dépression. Donc ça, c'est une piste intéressante, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière la dépression? Est-ce qu'il y a une dépression spécifique au grand âge? Et qu'est-ce qui l'a produit finalement? Qu'est-ce qui amène ces personnes-là vers la dépression? Mais c'est pas seulement la dépression, il y a certains suicides aussi qui ont été d'ailleurs médiatisés dans la presse, de gens qui sont pas du tout dépressifs, mais qui disent « moi, je veux éviter la vieillesse ». Et on revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est la vieillesse qui fait peur, mais aussi aux gens qui s'y projettent, quoi. Donc il y a des vraies réflexions à avoir sur ces questions-là.
L'autonomie, et puis oui, on pense aussi à la solitude, quand même, l'abandon. Autre forme d'abandon.
Oui, alors ça aussi, ça fait partie des...
C'est un mal des sociétés modernes. Est-ce que ces personnes que vous avez rencontrées, pour la plupart, parce qu'on le dit beaucoup, et on parle beaucoup des EHPAD en mauvais état et de l'abandon, et puis il y a des sociétés, même au sein de l'Europe, qui ne se comportent pas forcément de la même manière. En Italie, on voit très peu de maisons de retraite, en tout cas beaucoup moins qu'en France, on garde plutôt les personnes chez soi. Oui. Est-ce qu'ils parlent de cela, de l'abandon de leur famille, de leur isolement?
Alors, ils peuvent en parler. C'est vrai que on a vu certaines personnes âgées reprocher un petit peu, bah voilà, mes enfants, ils viennent plus me voir, maintenant ils m'ont oublié. On a eu ce discours-là. C'était une étudiante qui a travaillé sur ce sujet-là, puisqu'on avait un projet aussi sur la question de l'isolement et de la solitude. Mais parfois, on va un peu trop vite en besogne, en associant trop vite les choses et en faisant de la solitude et de l'isolement la cause de tous les maux, et sans, je dirais, prendre le temps de définir, déjà de faire la part des choses entre la solitude et l'isolement. On peut se sentir très seul alors qu'on revoit passer beaucoup de personnes chez soi, mais si c'est des soignants et le type de relation nous donne des choses. Et aussi, il y a des moments, des différents types de solitude. Il y a des solitudes qui sont choisies. Et inversement, le lien social, je pense qu'il faut pas le laisser de côté. Un lien social subi peut être aussi une cause de mal-être. Donc c'est aussi ça, on peut être en maison de retraite, voir beaucoup de monde, ou être chez soi, voir passer des soignants, etc. Ou vivre mal avec quelqu'un, et on n'est pas seul, mais le lien social là devient un poids aussi.
Je reviens sur le taux de suicide. Est-ce que vous pensez que le mode de vie actuel dans nos sociétés peut conduire à davantage de suicides, ou est-ce qu'il est urgent de s'occuper de cette question?
Alors, je dirais que
vous la voyez poindre comme un vrai danger pour une société comme la nôtre?
Je ne sais pas. Pour dire la vérité, je ne sais pas, parce que quand on regarde depuis 150 ans de statistiques, on a des personnes âgées qui se suicident plus que les autres. Ça, c'est pas nouveau.
Oui, autrefois, on n'avait pas autant de personnes âgées.
Exactement. D'accord. Alors, ce qui a vraiment visibilisé le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes âgées. Donc, du coup, c'est pas ça. Le taux, lui, reste élevé, mais c'est les effectifs qui augmentent. Donc, se pose la question de ce phénomène qui dure depuis longtemps. Est-ce que les cause qu'il y a derrière serait nouvelle et liée à des nouveaux modes de fonctionnement de notre société. Ça fait partie des hypothèses de recherche, mais c'est pas si simple, parce que pour comprendre le suicide, effectivement, ça veut dire travailler sur des morts, sur des gens qui sont morts, parce que des tentatives de suicide chez les personnes âgées, il n'y a pas beaucoup, hein, il n'y a pas de gens, entre guillemets, qui se ratent. Donc il y a plusieurs stratégies pour essayer de mieux comprendre ces questions, et c'est pas si simple.
Vous avez rencontré beaucoup de personnes âgées qui apprécient la vie, et ou qui aiment parler de celles qu'ils ont vécues. J'aime bien cette personne qui vous dit, au fond, les médecins, les familles, tous les autres, ils savent beaucoup de choses avec leur cerveau, parfois avec leur cœur, mais nous, la vieillesse, on la vit du dedans. Et on la sent, et sentir, c'est beaucoup plus que savoir.
Oui.
C'est très fort quand même.
Ça a été aussi une de nos erreurs, c'est de projeter parfois, de nous projeter dans la vieillesse, mais avec nos têtes de jeunes, entre guillemets, ou en tout cas de plus jeunes, et justement de penser le bien vieillir à travers, je dirais, des repères qui sont des repères que certains ont qualifiés de à la fois d'androcentrés. Hein, c'est beaucoup des hommes qui ont défini et qui ont mis en œuvre les définitions de ce que c'était du bien vieillir. Donc androcentrés et aussi un petit peu adultocentrés, c'est-à-dire des gens d'âge moyen qui pensent ce que c'est que pour eux, ça serait bien vieillir. Mais une fois qu'on est dans la vieillesse, on voit les choses forcément de manière différente.
Oui, parce qu'aujourd'hui, la personne très âgée, c'est évidemment plus celle qui vient de prendre sa retraite, même pas celle qui vient d'être grand-parent. Ils sont tous arrière-grands-parents.
Ah oui,
donc même cet aspect-là même ne joue plus, quoi, parce qu'il était quand même un ciment très solide.
Oui, maintenant on parle effectivement de famille à 5 générations et se pose la question, encore une fois, justement, de ces liens intergénérationnels, de ces solidarités familiales, de quelle place va trouver cette personne très âgée au sein de sa propre famille.
Ouais. À l'inverse, quand le vieillissement n'est pas pensé à travers ce prisme, donc de la sénescence, hein, on revient sur cette question qui est quand même la vie dure dans les représentations sociales. Vieillir, ça pourrait être un changement très très positif, sauf qu'on leur met en face la vieillesse, le vieillissement réussi versus le vieillissement raté.
Oui, on voit, et cela a été très critiqué dans le champ scientifique un peu, deux façons de bien vieillir. Soit, on a évoqué tout à l'heure la théorie de l'activité, il faudrait être actif, il faudrait garder la santé, il faudrait garder la fonctionnalité, etc. Et à l'opposé, une autre théorie qui, à mon avis, a des résonances tout aussi agistes que le vieillissement actif, c'est la théorie qui a été amenée du désengagement. L'idée qu'avec l'âge de quelque chose qui serait un peu naturel, eh ben, on se désengagerait, on se laisserait vivre, on se laisserait couler. Alors qu'au final, c'est ça qui est intéressant dans cette théorie du désengagement, c'est qu'à l'origine, elle n'était pas pensée comme quelque chose de naturel, mais comme quelque chose qui mettait en question la société, qui, d'un côté, laissait tomber un peu ces personnes âgées. Donc c'est vrai qu'il faut remettre l'accent sur un peu la place sociale, le rôle social des personnes âgées, pour éviter justement un petit peu cette réification que finalement, pour bien vieillir, il n'y aurait que deux voies, soit se laisser glisser, soit vraiment lutter contre la vieillesse pour rester jeune, ce qui est dans les deux cas un petit peu des injonctions impossibles, encore une fois.
Au-delà des différences culturelles, on peut dégager aujourd'hui des invariants un peu à la conception que l'on peut avoir du vieillissement. Altération de la santé, bien sûr, mais...
Oui, alors la santé, la santé et la fonctionnalité dans ce qu'on appelle les holocultural studies, c'est-à-dire les comparaisons interculturelles qui ont été menées par plusieurs ethnologues. Il y a effectivement cette composante...
Ce sont les marqueurs principaux.
De la santé, de la fonctionnalité, mais pas que. Ils mettent en avant surtout l'idée d'un changement de rôle social à un moment. Et pas forcément attaché à un âge chronologique. Et c'est bien chaque société considérée qui va déterminer, fabriquer, construire ce seuil, ce changement de rôle social et ce vers quoi doit tendre la personne âgée. Et finalement, dans certaines sociétés, arriver à un certain âge, ne plus avoir à s'occuper est quelque chose de positif. C'est finalement, on est détaché de certaines contingences et c'est ça finalement accéder à un statut de personne âgée.
Avec une activité intellectuelle, vous l'avez beaucoup observé?
En tout cas, si on n'est pas du côté de l'activité intellectuelle au sens où on peut l'entendre nous en Occident, on est du côté du savoir à transmettre. Et ça, par contre, si on revient en Occident, c'est aussi un discours qu'ont les personnes très âgées. C'est-à-dire que moi, je peux témoigner d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Et moi, quand je vois mes étudiants qui, pour certains, ont l'âge de pour être mes enfants, en fait, je trouve dommage qu'ils aient pas, pour certains, plus de liens avec les personnes très âgées. parce que je pense qu'ils prendraient du recul aussi sur la situation qu'ils vivent actuellement, avec parfois des clichés sur la vie c'était mieux avant. C'est ce que me disaient parfois mes étudiants. La vie c'était mieux avant, il y avait moins de pollution, les gens c'était pas comme maintenant, moins individualistes et tout ça. Alors ils oublient que les gens qui ont 90, 100 ans aujourd'hui ont connu des vies très difficiles, très très difficiles. La Seconde Guerre mondiale, la faim, ils ont été mal chauffés, mal nourris. Enfin, je veux dire, parfois ça fait du bien de se rendre compte de par où sont passées ces personnes-là pour comprendre leur époque.
Vous pensez qu'on va davantage vous écouter, quand je dis vous écouter, prendre en compte cette population, cette classe d'âge, comme elle le mérite, selon vous, c'est-à-dire pas seulement la soigner.
Oui, pas seulement la soigner et pas seulement en faire des, non plus les enfermer dans un rôle de témoin du passé, c'est-à-dire vraiment les intégrer. Mais on voit quand même passer parfois des projets où on cherche à faire de l'intergénérationnel. Je pense à certains projets que j'ai vu passer où c'est un peu raconte-moi ton quartier, c'est-à-dire des jeunes qui vivent dans un quartier et puis qui disent mais finalement comment il était le quartier il y a 70 ans. On va aller voir les anciens pour voir qu'ils nous racontent justement comment évoluer ce quartier-là, et ça c'est pas inintéressant.
Davantage les écouter, Frédéric Ballard, c'est évidemment, et pas seulement s'occuper, prendre soin de leur santé. Oui. C'est évidemment un début vers lequel vous tendez-vous, dans la sociologie, l'anthropologie aussi, vous nous l'avez démontré. Et c'est au fond s'occuper de leur, ce que vous appelez leur monde de vie.
Oui, c'est ça. Moi, je me suis attaché dans ma thèse à essayer de comprendre ce que le grand âge pouvait engendrer dans le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport aux sociabilités, le rapport aux objets. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'ils ont une appréhension du temps différente, pour des raisons physiologiques, peut-être au quotidien plus de lenteur, mais chaque activité va prendre un sens différent, on va attacher plus de sens aux choses, au temps des repas, au temps. Et puis il y a ce rapport au temps qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire le poids du passé dans le présent, qui est là à travers les souvenirs, mais aussi à travers les objets. Le rapport aux objets, ce que moi j'appelle les objets du cœur, c'est-à-dire ces objets qui comptent, qui permettent de faire durer l'identité face à la fragilisation qu'elle peut connaître par rapport au grand âge. Donc il y a ces objets-là, et puis il y a ce rapport à l'espace. Et là, je reprends les travaux de Bernard Pujalon qui sont fondamentaux là-dessus, sur ce domicile qui est un repère, et un repère avec les deux orthographes possibles, c'est-à-dire le lieu où je me sens en sécurité et le lieu où j'ai mes repères physiques et mes repères mémoriels.
Et c'est la grande souffrance quand ils doivent le quitter.
Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, où il faut vraiment amener un accompagnement lorsque le domicile doit... Non, on peut plus rester à domicile. Il faut vraiment que ça soit bien pensé, parce que sinon, c'est une vraie rupture pour certains dans leur parcours de vie.
Oui, dont les enfants n'ont pas toujours conscience, en dépit de leur amour.
Oui, bien sûr, parce que les enfants le font pour le bien de leurs parents, parce qu'ils s'inquiètent pour eux, parce qu'ils ont peur de la chute, et ils ont raison d'avoir peur. Ils ont peur qu'il puisse arriver quelque chose, qu'ils soient agressés, etc. Donc parfois, l'établissement rassure, et ça peut être un bon choix. Moi, je pense qu'il ne faut pas nécessairement penser que l'EHPAD est un mouroir horrible. Je pense qu'il y a des personnes âgées qui s'adaptent très bien et qui vivent bien en EHPAD, mais à condition que cela soit pensé, préparé. Et trop souvent, malheureusement, c'est un choix contraint, un choix forcé, et donc plus vraiment un choix.
Donc, on ne les consulte pas assez, ce qu'on pourrait dire de beaucoup de malades d'ailleurs.
Exactement.
Sauf qu'ils ne sont pas malades.
C'est ça, mais encore une fois, la vieillesse malheureusement est parfois assimilée à la maladie, au fait qu'on ne laisse plus vraiment la personne s'exprimer. Pour eux, c'est ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à plus m'écouter, c'est que ça y est, j'ai basculé.
Écoutons-les.
Voilà.
Merci Frédéric Ballard.
Merci à vous.
Le siècle des centenaires avec Frédéric Ballard, sociologue et anthropologue, spécialiste des plus âgés des âgés. Et merci à notre équipe Anne-Laure Chanel avec Manuel Couturier pour la réalisation, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet et Nino Lima, notre stagiaire, pour la préparation et la documentation. Très très bonne soirée à tous.